Madame Delaine, bonjour. Vous nous avez contacté pour notamment parler des possibilités de travailler avec un handicap invisible, avec une maladie chronique. Mais avant cela, le mieux serait sans doute de vous présenter d'abord aux auditeurs pour qu'on sache qui vous êtes et d'où vous parlez.
Bonjour, je m'appelle Marie Delaine. Je vous parle de Toulon, où je suis donc domiciliée actuellement pendant cette période de confinement. Je suis atteinte d'une maladie chronique qui s'appelle la sclérose en plaques. Celle-ci s'est déclarée, a été diagnostiquée plus précisément il y a 25 ans, après un temps d'errance, après de longs mois d'errance médicale.
Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que c'est la sclérose en plaques ?
C'est une maladie incertaine qui fonctionne par poussée. Elle a été parfois très handicapante, très perturbante, et puis d'autres fois elle m'a laissée tranquille. C'est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle épinière. C'est une maladie qui atteint les gens jeunes. C'est diagnostiqué autour de 30 ans. Il y a 130 000 personnes atteintes par cette maladie. C'est une maladie auto-immune, à l'instar de, par exemple, les rhumatismes articulaires inflammatoires, les diabètes, le lupus, le psoriasis. Enfin, elle fait partie de ces groupes de maladies où votre système immunitaire, au lieu de vous défendre, va vous attaquer. Vos anticorps vont, dans le cas de la sclérose en plaques, franchir la barrière hémato-encéphalique, cette barrière qui sépare le cerveau du reste de l'organisme, et attaquer la myéline. La myéline étant un élément qui protège les nerfs. Le nerf n'étant plus protégé, c'est comme un courant électrique. Il ne conduit plus bien l'influx nerveux. Et à ce moment-là, en fonction des lieux où les lésions se produisent, eh bien, vous avez des tas de troubles. Vous avez des troubles sensitifs, des fourmillements, des brûlures, des douleurs, des engourdissements, des pertes de sensibilité. Vous avez les troubles moteurs que l'on voit le mieux, la faiblesse musculaire, les troubles de l'équilibre. Ça, c'est fréquent de voir des gens avec des démarches ébrieuses qui caractérise bien la sclérose en plaques. Des troubles de la coordination, des troubles oculaires aussi. Le trouble oculaire est très fréquent. Des névrites optiques, des visions doubles, vous avez des baisses de l'acuité visuelle, des troubles urinaires. Les troubles urinaires sont voilà, aussi des troubles invisibles qui sont très fréquents. Et puis, alors là, il y a les troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, de la concentration qui apparaissent avec le temps, qui sont mal identifiés aujourd'hui encore. Et puis, le trouble qui concerne à peu près, je vous dirais, 95% des gens qui sont atteints d'une sclérose en plaques, la fatigue.
Pour vous, quelle a été l'évolution de la maladie ?
Moi, j'ai eu des troubles de la sensibilité au départ, des fourmillements, et surtout après, la fatigue qui était non identifiée, on ne savait pas d'où elle venait. J'ai fait de nombreux examens avant d'être diagnostiquée au CHU à la Timone. On n'évoquait pas de sclérose en plaques, on parlait de rhumatisme, on parlait de fatigue, on parlait de troubles psychiques, vous voyez. Et il a fallu simplement un IRM pour diagnostiquer la SEP. Et ça a été un soulagement pour moi, ça a été un soulagement de ce diagnostic parce que on mettait enfin des mots sur des troubles auxquels personne ne comprenait rien et comme il s'exprimait quand même essentiellement par de la fatigue, on ne comprenait pas et moi non plus. C'était très perturbant. Donc, si vous voulez, quand ce diagnostic a été posé, ça ne m'a pas posé particulièrement de problème. Au contraire, ça m'a plutôt apaisée. Bon, après une fois le diagnostic posé, si vous voulez, j'ai fait quelques traitements parce qu'il y a deux grands types de traitements. Pour faire échec aux poussées, pour interrompre les poussées, c'est les corticoïdes, la cortisone à dose massive. Et puis, il y a les traitements, les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs qui ont pour objet d'interrompre, de ralentir le processus parce que c'est une maladie incurable. On n'a pas trouvé, comme pour les autres maladies auto-immunes d'ailleurs, on n'a pas trouvé de traitement, de moyen permettant de l'interrompre. On vit avec, c'est une maladie que l'on a à vie. C'est pour ça qu'on parle de maladie chronique. Et dans mon cas, si vous voulez, les difficultés, elles sont apparues au moment où la maladie s'est exprimée de manière agressive, c'est-à-dire sous forme de poussées répétées. Diagnostic en 96, pas de problème pendant 4 ans, jusqu'en 2000. Première difficulté à partir de 2000 et en 2003, avec la canicule, une série de poussées extrêmement puissantes et violentes. Voilà. Et là, vraiment, qui m'ont plongé dans le plus grand désarroi et physique et psychique. J'avais des plus grandes difficultés, qu'il soit pour marcher. J'avais une fatigue intense et ça a été une période extrêmement compliquée. Et puis après un traitement très efficace, un traitement immunosuppresseur, vous voyez, je me suis arrêtée pendant plusieurs mois là, pendant plusieurs mois.
Parce que la maladie en fait vous a prise pendant votre parcours professionnel.
Voilà, exactement. Moi j'étais fonctionnaire, je suis fonctionnaire, je viens de la directe, j'exerçais des fonctions juridiques au sein de ce qu'on appelait à ce moment-là la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc j'ai eu la possibilité de m'arrêter plusieurs mois, puis j'ai eu envie de retourner au travail. Vous voyez, ça a été pour moi, ça a été absolument essentiel de reprendre un peu la main sur le cours des choses, d'avoir une vie que je qualifie moi de normale. Ça a été aussi un moment d'angoisse, parce que j'avais peur, j'avais toujours la fatigue. La fatigue là, je ne connais pas de traitement qui permette, à moins d'une bonne hygiène de vie, de la réguler. En tout cas, moi, j'avais très peur à ce moment-là, je m'en souviens très précisément, c'était en 2005, j'avais vraiment très peur d'être dépassée par le rythme de travail, de ne pas y arriver. Et pourtant, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, parce que j'ai bénéficié de beaucoup d'atouts, moi. J'ai eu vraiment, c'est ça que je veux transmettre, c'est ça que je veux porter, dire c'est possible, on peut avoir un milieu professionnel bienveillant, voyez, dans lequel la maladie n'est pas stigmatisante, parce que je boitais, j'avais une canne, c'était quand même le regard des autres me perturbait, m'incommodait, j'ai beaucoup souffert du regard des autres, mais c'était ma propre histoire à moi, c'est mon problème à moi, voyez, parce que j'ai toujours conservé des contacts amicaux, cordiaux avec mes collègues de travail, j'ai maintenu aussi, j'ai eu une relation toujours de confiance avec ma hiérarchie, elle n'a pas mis en doute ma hiérarchie et mes compétences, elle a vu des limites, elle a vu des changements de rythme, elle a vu de la fatigue, ça c'était vraiment perceptible, mais on ne m'a pas remis en question. J'ai eu des adaptations de poste, j'ai dû passer d'un poste actif où j'avais des déplacements vers un poste sédentaire, mais toujours avec mes fonctions juridiques, ce qui était l'essentiel pour moi. Dire le droit pour moi c'est essentiel, parce que c'est le rendre effectif. On est dans une société de droit et j'ai pris ma cœur, surtout maintenant que j'ai cette maladie, avec cette maladie, de faire passer ce message. Pour réduire ma fatigue, si vous voulez, j'ai pu bénéficier pendant un temps, puisque j'étais fonctionnaire, c'était possible, d'un travail à temps partiel thérapeutique pendant un an. C'est pareil dans le secteur privé. Puis d'une formule qui s'appelle le congé de longue maladie fractionné, qui m'a permis de travailler pendant de nombreuses années. J'avais une répartition du temps de travail qui m'a permis de commencer plus tard pour éviter par exemple les embouteillages et des journées pas très longues. Avec le congé longue maladie fractionnée, on a pu établir un protocole de soins qui m'a permis d'utiliser du temps pour me soigner, c'est-à-dire faire de la rééducation, de la baléo, de la sophrologie, de l'orthopsie parce que j'avais des problèmes oculaires, et puis pour m'apaiser, de la méditation pleine conscience et des tas d'autres soins qui m'ont permis de continuer à travailler. Voilà. Et ça, c'est des formules dont j'aimerais que tout le monde puisse bénéficier. J'ai eu aussi une belle compréhension de la part du médecin de prévention, c'est le médecin de l'aptitude dans la fonction publique. Et j'ai travaillé donc jusqu'en 2017, où à la suite, si vous voulez, d'un accident, d'une chute et d'une accentuation de ma fatigue, j'ai décidé de partir en retraite anticipée.